grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast dans notre beau pays rabelaisien et cartésien. L'alcool est partout, dans les bistrots, en boîte, au restaurant, à la maison, à l'apéro, en soirée, au boulot, entre amis, en famille. L'alcool reste un marqueur social qui fait de vous un être convivial, jouisseur, un être festif comme l'aurait dit le regretté Philippe Muret. L'alcool est un formidable liant social qui délie les langues et désinhibe. On boit de l'alcool mais également du sens, des symboles qui racontent une manière de vivre et de penser. En France, ne pas boire du tout interroge, étonne, agace parfois, mais c'est également un lourd fardeau sanitaire. L'alcool tue à petit feu ou violemment. Selon les chiffres de Santé publique France, 7% des décès dans notre pays sont attribuables à l'alcool. Et s'il ne tue pas, il peut devenir une addiction qui nuit gravement à l'existence. Ce matin, je vous propose de comprendre nos raisons de boire ou de ne pas boire avec les journalistes Thomas Pitrel et Victor Legrand, le psychiatre Amine Benyamina, notre grand témoin Mélanie Bauer de France Inter et avec bien évidemment Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Racontez-nous votre rapport à l'alcool, pourquoi buvez-vous, que ce soit avec modération ou avec excès, quelles sont les conséquences dans votre vie, sur votre santé, sur vos proches, et si vous ne buvez pas ou plus, votre entourage comprend-il votre choix? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Écrivain, médecin, chaque semaine, vous nous racontez une histoire de médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui on va souhaiter un joyeux anniversaire à la plus vieille auditrice de France Inter.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébé.
Bonjour Thomas Pitrel.
Bonjour.
Bonjour Victor Legrand.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au bimensuel Society et vous venez de publier chez Flammarion, Tournée Générale, La France et l'alcool. Bonjour professeur Amine Benyamina.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, addictologue et vous dirigez le service de psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Dernier ouvrage paru, Comment l'alcool détruit la jeunesse. Bonjour Mélanie Bauer.
Bonjour.
Vous serez le grand témoin ce matin dans notre émission.
Je suis journaliste aussi.
Vous êtes journaliste également. Vous êtes journaliste également. Vous buviez beaucoup et vous êtes aujourd'hui plus sobre.
Totalement sobre.
Alors Thomas Pitrel, Victor Legrand, en France tout le monde a un rapport à l'alcool, hein, même les abstinents. Pourquoi boit-on pour vous, Thomas Pitrel? Vaste question.
Bah ouais, je pense qu'on boit pour de multiples raisons. On boit parfois pour se désinhiber, parce qu'on a une petite timidité parfois, et puis on boit pour s'amuser, pour oublier des problèmes, pour des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a chacun un peu sa façon de boire, comme il a sa façon de peut-être d'utiliser d'autres substances psychotropes.
Victor Legrand, c'est un plaisir qui rassemble, c'est un carburant social.
C'est un carburant social. On peut boire aussi pour le goût, parce que c'est parfois très bon, c'est parfois très très mauvais, mais c'est aussi parfois très bon. Mais oui, je pense qu'on boit par... En France, c'est ce que vous disiez dans votre introduction, c'est-à-dire que soit on a tous un rapport à l'alcool, ceux qui boivent et ceux qui boivent pas. Et je pense qu'on peut boire par aspect social, si je peux dire ça comme ça.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Tournée Générale ?
Alors, ce qui nous a poussé à écrire Tournée Générale, c'est que à la base, la société pour laquelle on travaille, Sopress, édite plusieurs magazines, dont SoFoot, qui est en fait un magazine qui traite du football, mais à travers le football, essaye de raconter un peu la société, le monde qui nous entoure. Et en fait, ce qu'on a voulu faire avec l'alcool, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire ni un guide des meilleurs vins ou des meilleures bières ou whisky, ni un livre sur la santé, parce qu'il y en avait déjà quelques-uns. Nous, on a voulu faire un livre qui raconte à travers l'alcool ce qu'est la société française et surtout comment elle a évolué ces dernières années à travers l'évolution de notre rapport à l'alcool.
Victor Legrand.
Oui, c'est un portrait de la France par le prisme de l'alcool. C'est ça, SoFoot, c'est le monde raconté par le foot, et nous, c'est la France racontée par l'alcool. C'est comment l'alcool imprègne toute notre société d'un point de vue économique, politique, culturel et même écologique.
Amine Benyamina, l'alcool, pourquoi on boit? Pour l'écrivain québécois Louis Gauthier, l'alcool est l'aspirine de l'âme.
On a un rapport à l'alcool dans le monde et en France particulier. Alors parlons du vin, parce que c'est qui est d'abord spirituel, historique, convivial. ils marquent les éléments de notre vie importante, à la fois, disons, groupale, communautaire et même individuelle. Est-ce qu'on peut imaginer un anniversaire, un départ et même un décès si on n'ouvre pas une bonne bouteille? Je pense que c'est un élément extrêmement important sur lequel il faut être très vigilant lorsque, dans ma position, j'essaie d'avoir des messages de prévention et rapidement je passe pour celui qui empêche les gens de s'amuser ou un empêcheur de jouir. À la manière du plateau que vous avez mis en place, Ali, on peut parfaitement dans la société montrer les limites et les risques liés à l'alcool et évidemment ne pas tuer l'hédonisme que vous êtes en train de représenter vous deux à travers cet écrit. Et c'est vraiment la grande question et la grande interrogation des limites et de l'équilibre qu'on a dans notre pays. Et on boit aussi pour ça.
Mélanie Bauer, pourquoi est-ce qu'on boit en France pour vous ?
Oh, il y a plein de raisons. Déjà, il y a le mode de vie. Moi, j'ai beaucoup vécu la nuit, donc à partir du moment où on vit la nuit, on boit. Il y a cette espèce de besoin de la fête, parfois un peu gargantuesque. Il y a effectivement le goût, parce que tout est associé. C'est une difficulté quand on arrête de boire, c'est qu'est-ce qu'on boit avec les huîtres ? Qu'est-ce qu'on boit avec le fromage ? Et toute la société adulte est tournée vers l'alcool. Donc à partir du moment où on n'a plus l'alcool, eh bien on devient un enfant. On boit des boissons d'enfants, on a une gastronomie d'enfants et on est considéré comme quelqu'un d'un peu malade, un peu un enfant. Et c'est assez étonnant. On est adulte à partir du moment où on boit. Et en général, quand on boit, on n'est pas très adulte. Donc il y a une espèce de paradoxe comme ça par rapport à l'alcool.
Baptiste Beaulieu.
Ah oui, je comprends ce que tu dis, Mme Bauer, par rapport à ce côté initiatique, un peu de rite initiatique. Moi, je me souviens, mon père qui me disait, oh, tu boiras quand tu auras du poil au menton. Il me disait ça quand j'étais petit.
Et là, vous avez beaucoup de poil au menton.
Mais je bois pas. Moi, je bois pas. L'alcool a détruit une partie de ma famille et c'est quelque chose auquel je n'accède pas du tout parce que c'est des mauvais souvenirs aussi pour moi.
Comment s'est vu le fait que vous ne buviez pas, Baptiste Beaulieu?
Ah, très mal. En soirée, ce que disait Mme Bauer, c'est, on dit, ah, mais t'es pas marrant, t'es pas drôle, tu bois pas, alors qu'on peut très bien s'amuser sans boire aussi, quoi.
Moi, je suis entourée de gens bourrés à peu près tout le temps. Et ça, c'est. Il y a plusieurs phases dans la soirée. Il y a la première phase, la phase que j'appelle des trois verres. Donc, les trois premiers verres où les gens commencent à se lâcher un peu. Ils sont très, très rigolos. Et puis, passé les trois verres, il y a la phase de la connerie. Alors là, ils commencent à rentrer. Effectivement, on devient un effet miroir par rapport à leur ivresse. Et là, ils commencent à nous regarder de travers et à nous dire là, c'est un souci que tu ne sois pas comme nous.
Ouais. Aline Perraudin.
Moi, j'ai souvent vu la phase de la connerie, du coup, ça m'a décidé de boire.
Vous ne buvez pas, vous, Aline Perraudin.
Je bois pas du tout, vraiment par goût, pas du tout pour des questions de santé. J'ai toujours préféré le chocolat au whisky. Voilà, c'est comme ça.
Thomas Pitrel.
Mais j'aime la gastronomie.
Thomas Pitrel, Victor Legrand, comment est vue cette France qui ne boit pas?
Je pense qu'on vient de l'entendre, hein. La France qui boit pas, on a toujours l'impression que les gens qui boivent pas ont un problème. Ce qui est assez étrange. On n'a pas poussé l'étude à aller regarder comment ça se passait dans chaque pays, à interroger des gens dans chaque pays, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a assez peu de pays où ça se passe comme ça finalement. On parle à une personne dans le livre qui nous disait, moi j'ai été aux États-Unis, par exemple, les gens boivent pas mal, en tant qu'étudiant, etc. On peut faire des fêtes bien alcoolisées, mais les gens qui boivent pas sont pas vus comme ils sont vus en France. Et ça, je pense que ça dit quand même quelque chose du pays dans lequel on est.
Alors, selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, paru en 2018, près de 10% des Français n'ont jamais bu d'alcool, et un quart des Français n'a pas bu dans les 12 derniers mois. Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est vrai que dans les séries américaines, par exemple, ils ont toujours un verre de vin à la main, ils rentrent le soir, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir une bouteille de vin. Il y a un petit côté aussi cool, voilà, branché, et ça, cette image-là, je pense qu'elle est à combattre aussi.
Oui.
Quoi.
Et puis, ils prennent toutes leurs décisions bourrées. C'est ça qui est incroyable.
Aline Beniamina.
Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a des placements organisés par les grands
lobbies. Placements de produits.
Évidemment, des placements produits qui sont organisés, qui ne sont pas le fait du hasard. On a vu ça avec le tabac, évidemment. On a réussi à faire un travail intéressant. On en parlera tout à l'heure, probablement, Ali. Mais ce n'est pas le fait du hasard de voir des jolies jeunes filles comme Sex and City ouvrir tous les soirs une bonne bouteille avec un grand verre.
Hein. Alors, Thomas Pitrel, Victor Legrand, vous le montrez bien dans votre ouvrage, l'alcool est un fait social total, un fait culturel, sanitaire, mais c'est également un produit en vente libre qui fait vivre et mourir des milliers de dizaines de milliers de Français. C'est le paradoxe de l'alcool en France.
Bah oui, oui, c'est le paradoxe. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui deux camps en France qui s'affrontent un peu, le camp de la santé et le camp de ce qu'on appelle la filière, quoi, le lobby en fait de l'alcool. Et en fait, c'est l'impression qu'on a après avoir écrit ce livre, ces deux camps ont du mal à se parler parce que finalement le dialogue n'est pas vraiment organisé par l'État. Alors, Monsieur Beniamina, vous me confirmerez peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas énormément de subsides de l'État pour la recherche sur les effets de l'alcool. Et de la même manière, dans les sciences sociales, enfin, il y a très peu de recherches qui sont faites sur l'alcool, alors que l'alcool est très important en France.
Est-ce que c'est parce que, dans notre pays, l'ivresse est socialement bien acceptée ? Ça montre que vous êtes un bon vivant, fidèle à la tradition rablaisienne de notre pays ?
Bah, je sais pas, mais l'un des grands moments de télévision de l'histoire française, c'est Bukowski qui est bourré chez Apostrophe. Mmh. Et quand on regarde ça, on trouve ça presque charmant, drôle, subversif, et ça marche encore. Mais ça dépend des opinions. Je me souviens qu'on a rencontré des gens qui nous disaient que non, l'ivresse avait une mauvaise image, mais ça dépend où on se place quand on est, par exemple, artiste, parce que nous, dans le livre, on a rencontré pas mal d'artistes qui nous parlent de leur rapport à l'alcool et de la place de l'alcool dans leur œuvre. Ça peut avoir un côté, de moins en moins, je pense, mais il peut avoir un côté cool à être ivre. Ça dépend du degré, évidemment, mais ça peut participer à quelque chose de...
Ça dépend du degré d'alcool. Mélanie Bauer.
Effectivement, c'est subversif. C'est-à-dire, moi, pour avoir bu pour l'entièreté de ma vie d'adulte, aujourd'hui que je bois plus, j'ai des gens qui me disent « mais t'es pas rock'n'roll ». Ce qui est absurde, parce que j'ai quand même passé ma vie à être rock'n'roll et que je continue à l'être sans boire.
Je confirme, mais... vous l'êtes.
Mais c'est vrai qu'il y a ce regard qui est « si tu bois pas, t'es une mamie ». Va faire du tricot. Et ça, c'est un vrai souci.
C'est bien les mamies qui font du tricot aussi. Oui. Mélanie, pardon, Benjamin.
Il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a deux dimensions importantes à distinguer. C'est la liberté, et heureusement, on est dans un pays libre, de boire sur le plan individuel et de prendre des responsabilités en tant que personne dans son individualité, et la responsabilité des gouvernants, des décideurs, sur la santé collective. Et le problème actuellement, il y a un vrai déséquilibre. L'information loyale sur les risques liés à l'alcool n'est absolument pas existante. Ce qu'on a fait pendant des années pour le tabac. Et c'est là où, très clairement, il y a un déséquilibre entre le lobby puissant que nous dénonçons, et puis nous, quand on nous traite, pas vous, hein, on nous traite d'hygiéniste, de lobby de la santé. Et je suis fier, pour une fois, qu'on me traite de lobbyiste. Et là, la question se pose. Mélanie s'est arrêtée de boire. Vous avez dit et vous avez proclamé avec plaisir que vous aimez le vin, l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais l'État ne doit pas. Et le président de la République a eu une confusion lorsqu'il a dit « moi, je bois ». C'est pas Emmanuel Macron qui m'intéresse, c'est le président de la République.
Vous l'avez constaté ça, Thomas Pitrel, Victor Legrand ? Qu'est-ce que vient de nous dire Amine Benyamina ?
Oui, alors après, en fait, ce que vous appelez le lobby, c'est assez particulier, parce qu'il y a effectivement un lobby, il y a des organisations qui défendent la position de différentes filières de l'alcool, le vin, les alcools forts, la bière, etc. Après, à côté de ça, en fait, le lobby, j'ai envie de dire qu'il est il est quasiment dans à l'intérieur des circonscriptions, des députés, des sénateurs, etc. Quand il y a la moitié des circonscriptions de députés, je pense, où la viticulture a une importance économique. Donc, du coup, c'est aussi compliqué, je pense, pour ces gens-là d'aller contre les intérêts d'une filière qui représente quand même quelque chose d'important chez eux.
Allez, racontez-nous votre rapport à l'alcool. Pourquoi buvez-vous ? Est-ce mal perçu quand vous révélez que vous ne buvez pas ou plus ? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Claire Destacan.
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. J'y roule en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boucu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore.
Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boucou. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, ils se promènent.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boucou. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait craque-boum-hu, 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 craque-boum-hu. Encore.
Dutronc, les Playboys.
Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire.
Grand bien vous fasse.
Et toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
Sur France Inter.
10h23, quel est votre rapport avec l'alcool, que vous buviez ou non? 01 45 24 7000.
Chaque année en France, l'alcool est responsable de 41 000 décès. C'est plus de 7% de la mortalité totale. Les Français comptent toujours aujourd'hui parmi les plus gros consommateurs au monde. 11,7 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Soit près de 1000 verres chaque année.
Ben les anniversaires, les soirées, les after-work, y a souvent des occasions, effectivement, oui, c'est vrai.
Quand on est en soirée, on est plus sur des alcools forts, whisky, vodka, gin, etc.
Il y a les jours où on boit vraiment pour se saouler et du coup ça va être une ou deux fois par semaine. Et la bière qui passe tranquillement pour aller boire un coup, qui est plus un prétexte au fait de passer un moment ensemble, qui va être 3-4 fois par semaine.
Une consommation excessive selon les autorités sanitaires. Elles préconisent de ne pas dépasser 2 verres d'alcool par jour, que ce soit de la bière, du vin ou un alcool fort. Et de ne pas consommer au moins 2 jours par semaine.
Extrait d'un reportage sur France 2 en février dernier. Aline Perraudin de Santé Magazine, vous avez lu cette étude de Santé publique France?
Oui, oui, les dernières estimations concernant l'alcool, qui tue, on l'a vu, 41 000 personnes en 2015.
30 000 hommes et 11 000 femmes.
Oui, selon l'organisme public, 16 000 personnes sont décédées par cancer, 9 900 par maladie cardiovasculaire, 6 800 par maladie digestive, 3 000 par d'autres maladies, comme le diabète, épilepsie, et 5 400 par accident ou suicide. Alors, l'alcool reste la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. 7% des décès ça correspond 7% des décès de personnes âgées de plus de 15 ans sont attribuables à l'alcool, c'est énorme. Les auteurs précisent cependant que 90% de ces décès sont dus à une consommation de plus de 5 verres par jour. Toutefois, même en consommant moins de 2 verres standards par jour, le risque global est augmenté. Même s'il est faible, mais il est augmenté. D'où l'importance d'avoir des repères simples, de respecter les repères de consommation qui sont pas plus de 2 verres par jour et arrêter de boire pendant au moins 2 jours. C'est-à-dire pas plus de 10 verres par semaine.
Amine Benyamina, on le voit bien, année après année, l'alcool a un impact sanitaire considérable, même après un siècle de diminution. À partir de combien de verres prend-on vraiment des risques pour sa santé et sa santé mental notamment?
Ça a été un peu dit par Aline, et elle a fait référence sans le dire à un article extrêmement important qui a fait polémique, mais dans la méthodologie extrêmement robuste, c'est l'article de Lancet, qui avait dit il y a 6 mois à peu près que dès lors qu'on commence à boire, on déclenche finalement le compteur du risque. Mais ensuite, évidemment, c'est une lecture statistique, mais réelle, parce que c'est pas un produit banal, parce que la prise d'alcool est un produit exogène, extérieur, et qui de fait, quel que soit la personne, et quelle que soit la quantité, ou quel que soit le type d'alcool, va avoir un effet, même mineur, mais un effet sur le corps, sur le cerveau, sur le foie, et les risques sont d'abord sur le plan anatomique, mais aussi les risques de développer une appétence à l'alcool. Et ça, c'est une prise régulière et en fonction des vulnérabilités. Les vulnérabilités, elles sont psychologiques, environnementales, je perds mon ami, je me fais larguer par ma copine ou mon copain, et ben j'augmente parce que, comme ça l'a été dit, c'est un moyen pour moi d'être un peu bien. Ça dure 15 minutes, ensuite la facture vient après.
Comment l'alcool modifie notre cerveau ?
Et ben l'alcool, c'est un produit qui vient modifier ce qu'on appelle les neurorécepteurs, la neuromodulation. Pourquoi on aime bien l'alcool entre guillemets? Parce que il va avoir le même effet qu'un anxiolytique. Il va avoir un effet sur le système GABA, ce qu'on appelle le GABA, et on va se sentir bien, son sentiment de bien-être, d'élation. Et c'est pour ça qu'on boit l'alcool.
C'est quoi le système GABA?
C'est un système de neurotransmission qui va avoir un effet qui va diminuer l'anxiété et qui va nous détendre. Et c'est la raison pour laquelle il est consommé. En revanche, on est tous différents après. On peut inconsciemment ou bien en fonction de sa nature biologique se retrouver à avoir recours à ça parce que on trouve une solution malgré soi. Et parfois, on a du mal à l'arrêter parce que quand on arrête, on a les effets du manque. Et tout le monde est différent. Parce que pour la même soirée, ben des gens qui vont s'arrêter très vite, d'autres qui vont dégueuler, vont avoir mal, c'est comme le disjoncteur, ils seront protégés, et d'autres qui se sentiront très bien, qui continueront et qui auront la facture plus tard.
Aline Perraudin.
On voit que les jeunes, notamment les jeunes femmes, rattrapent les garçons en consommation. Et je voudrais parler d'un risque encore
absolument
pas assez connu, c'est celui du cancer du sein.
Absolument.
Il y a à peu près 8000 nouveaux cas de cancer du sein qui seraient dus à l'alcool en
très
France
juste
aujourd'hui.
Important message.
Professeur Benyamina, à partir de quel seuil de consommation peut-on être considéré comme alcoolique? Pour le Robert, l'alcoolisme, c'est un abus de boissons alcooliques déterminant un ensemble de troubles, état chronique résultant de la consommation habituelle d'alcool. Et pour l'addictologue que vous êtes, à partir de quel moment on tombe dans cette addiction?
C'est lorsque on a besoin de consommer un alcool de manière régulière et cyclique, même si c'est une fois par semaine. Je le dis bien, une fois par semaine, mais c'est une prise importante. Et quand on saute cette une fois par semaine, on sent le manque. Vous voyez, je suis vraiment excessif, mais ça permet de poser les choses. Si on consomme tous les jours, évidemment, à l'arrêt, on a des signes de manque, on y pense. Et si on consomme tous les deux jours et c'est cyclique, on a un rapport à l'alcool qui devient un rapport nécessaire. Et je rentre pas dans les détails parce que je ne veux pas que les auditeurs essayent de se calculer, et ensuite ils vont vous téléphoner et vous dire, professeur Benyamina.
Mélanie Bauer, je rappelle que vous êtes journaliste musicale, chroniqueuse dans l'émission Par Jupiter. Longtemps, vous avez eu un problème avec l'alcool. Pour parler de façon euphémisée.
Alors, ça n'a pas été un problème. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Hein.
Oui, c'est d'abord pour ça.
Mais bon, à un moment, c'est devenu un problème.
À un moment donné, c'est devenu un problème parce que, justement, il y avait perte de contrôle, parce qu'il y avait... je pense qu'un des symptômes de l'alcoolisme, c'est la honte. Et effectivement, le réveil le matin en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» ou le blackout, ou toutes ces choses où on se dit... et puis surtout, ce dont vous parliez, moi ça m'intéresse, c'est les négociations avec soi-même. C'est-à-dire que l'alcool prend une place énorme. Alors ce soir je bois 2 verres, oui mais en fait je vais en boire 3, mais demain je boirai pas, etc. Et on rentre dans une espèce de...
Les pensées permissives.
Voilà. Et on rentre comme ça dans une routine où on est perpétuellement en négociation avec soi-même, que ce soit pour un verre ou que ce soit pour une cuite. C'est toujours, oui, alors là, demain, oui, ou hier, ou etc., la semaine prochaine. Et je me rends compte autour de moi du nombre de gens qui fonctionnent comme ça. Et effectivement, sur la fin, moi, j'étais dépressive, j'étais triste, j'étais carrément triste.
Alors, 23% des femmes de 18 à 75 ans boivent entre... 1 et 6 fois par semaine, vous c'était donc nettement plus. Est-ce que vous vous considériez comme une alcoolique ou comme une très bonne vivante?
Bon, je me suis longtemps considérée comme une artiste. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, c'était la créativité, c'était pas forcément quelque chose de lié à l'alcool, que la convivialité, que la timidité. Je suis quelqu'un de très 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 timide et l'alcool me permettait d'être la personne extravertie que j'avais envie d'être. Sauf que la personne extravertie que j'avais envie d'être était quand même assez débile.
Un élément très important qui concerne toutes les addictions à l'alcool en particulier, c'est que la prise de ces psychotropes naturels et réjouissants hein, que vous aimez sont antinomiques avec la production artistique. Lorsqu'on est sous l'effet de ces drogues, on ne produit pas. C'est dans les périodes au cours de laquelle on retrouve son esprit qu'on produit. Hein. C'est très clair. Hein.
Victor Legrand, vous êtes co-auteur de Tournée Générale, La France et l'alcool.
Tous les artistes qu'on a rencontrés dans ce livre pour qu'ils nous parlent de leur rapport à l'alcool nous disent tous la même chose. C'est-à-dire on peut boire avant pour sortir, faire des choses un peu bizarres et pour ensuite les raconter dans leur œuvre. On peut boire après, sur scène pour les musiciens, mais la production est antinomique avec l'alcool et l'ivresse.
Bienvenue Mélanie.
Oui, bonjour.
Vous habitez Pont-de-l'Arche et vous avez, je peux révéler votre âge, 37 ans. Et vous ne buvez pas d'alcool depuis que vous êtes ado.
Exactement, voilà. Alors moi, je viens d'une famille bretonne, enfin je suis bretonne, où il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de conflits, du ça et de la violence physique. Ensuite, mes parents ont acheté un bar en Bretagne, où j'ai pu voir, jeune ado, des comportements que je qualifie aujourd'hui de tristes, de dépravants. Et du coup, j'ai fait mon expérience avec l'alcool que j'avais que j'avais donc facilement, gratuitement, du fait que mes parents avaient un établissement où on vendait de l'alcool. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ça allait pas, que ça m'apportait des angoisses aussi, que je voulais pas forcément perdre le contrôle. Donc j'ai arrêté. Et puis je suis devenue, alors, grâce à ça, alors que j'ai eu le permis de conduire, et ben la bonne copine que les parents aimaient savoir dans l'entourage de leurs enfants pour rentrer de boîte parce que Mélanie ne buvait pas. Mais à la fac, plutôt mise de côté sur certaines soirées parce que bonne nuit, je savais pas a priori m'amuser et voilà, donc ça m'a permis aussi de faire le tri dans les personnes que j'avais envie de fréquenter.
Mélanie Emeline nous dit par message Facebook que je suis étudiante et je ne bois pas. Par goût, les autres me disent que je ne suis pas drôle. Ils se demandent si je ne suis pas musulmane, ancienne alcoolique ou végétarienne. Et dans ma famille, un oncle grand amateur de vin ne comprend pas mon non-goût pour l'alcool. Vous aussi, vous avez ce type de questions, j'imagine,
alors,
Mélanie.
Moi maintenant, parce que ça fait des années et puis parce que j'ai 37 ans, donc j'ai pu aussi affirmer mes choix. Mais encore récemment, ça m'arrive d'aller quelque part, de rencontrer de nouvelles personnes. On me propose un apéritif. Et donc, je dis, je ne bois pas d'alcool, donc ça arrive, on boit peut-être un vin cuit ou une petite bière ou un cidre. Non, je ne bois pas d'alcool. Donc, c'est vrai que, comme disait Mélanie Bauer, on passe dans la catégorie des enfants, donc un Fanta, une boisson un petit peu sucrée, alors que, bon...
Aline Perraud dans le Santé Magazine.
Moi, c'est le jus de tomate qui me sauve.
Mélanie Bauer.
Ouais, effectivement, ça, c'est une vraie question. Moi, on m'a dit le vin, c'est la France, tu trahis la France, etc. Il y a toujours cette espèce de truc. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas une gastronomie sans alcool? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller prendre un apéro et boire un petit jus de gingembre coupé avec un petit perrier et puis quelque chose un petit peu savoureux? Pourquoi est-ce qu'on est toujours, si on n'a pas, si on ne boit pas, on est considéré comme quelqu'un de pas drôle, qui n'a pas de goût, qui n'a pas besoin, qui va boire un soda, quoi.
Pourquoi aussi on ne peut pas prendre un café parfois après 18 heures, quoi, dans des bars? Et pourquoi aussi l'alcool, on ne met pas les compositions nutritionnelles et le nombre de calories? Peut-être que ça empêcherait des jeunes femmes de trop boire.
Ça, c'est intéressant ce que nous dit Aline Perraudin dans votre livre, Thomas Pitrel, Victor Legrand. Il y a un grand une opération de lobbying pour qu'il n'y ait pas, d'étiquetage précis sur les bouteilles d'alcool.
Ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau européen. On n'a pas trop réussi à comprendre d'ailleurs comment ça s'était fait, parce que en fait normalement toutes ces informations là, la composition, c'est censé être sur tous les produits alimentaires, mais l'alcool en a toujours été exclu. Et donc aujourd'hui, il y a une tentative de d'inclure l'alcool en fait dans ces règlements. Mais il y a un grand travail de lobbying derrière pour dire non, ce serait trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs de vin, etc., et que ce serait difficile pour eux. Bon, il y a aussi des petits producteurs de nourriture autre.
Merci beaucoup à Mélanie de nous avoir appelé. Alors, ne pas boire d'alcool et de vin en particulier, c'est souvent mal perçu. Et les lobbies, les professionnels de l'alcool savent jouer de cette étrangeté. Vous le montrez bien dans votre livre.
Oui, et en fait, je sais pas si, je pense que les lobbies encouragent ça, mais c'est toute la société en fait qui est comme ça. On peut pas non plus que blâmer les lobbies. Je pense que la société française est organisée autour de ça, et il y a dans chaque société, je pense, des choses, des pratiques qui font qu'on s'inclut dans le groupe ou qu'on s'en exclut. En France, c'est clairement le vin et l'alcool en général.
Je vous cite Amine Benyamina, hein, les lobbies déploient leur perversité jusqu'à rendre l'alcool encore plus attractif.
Oui, évidemment, on le voit bien, puisque Aline en a parlé tout à l'heure. Traditionnellement, ceux qui boivent, ce sont des hommes d'âge mûr et qui consomment et qui ont l'autorisation de la société de consommer sans être
critiqués. Et d'avoir du bide.
Et voilà, du bide, et voilà. Et pour autant, bon, c'est comme ça. Il renvoie cette image, on n'y peut rien, c'est ainsi. Et donc, pour renouveler finalement ces personnes qui consomment et qui d'ailleurs s'arrêtent parce qu'à un moment donné, elles sont restées malades, on va vers les jeunes et les femmes. Et c'est comme ça qu'on a développé un alcool de mauvaise qualité qui a été adapté à ce type de population pour renouveler le cheptel, entre guillemets, pardon.
Et il existe une guerre des études scientifiques, hein, celles qui sont brandies par les lobbies viticoles et celles qui sont agitées par les addictologues, Thomas Pitrel. Bah, chaque camp s'accuse d'avoir un agenda caché, hein.
Oui. Bah, en fait, oui, le lobby du vin en France continue à maintenir le fait que le vin pourrait être bon pour la santé à petite dose. Ce qui, a priori, ça pas être possible de continuer sur ce discours-là très longtemps, parce que toutes les études, comme vous le mentionnez tout à l'heure, l'étude du Lancet montre que à partir du premier verre, le risque augmente, même s'il augmente pas beaucoup. Voilà. Et même d'ailleurs, on a aussi parlé à des représentants d'organisations qui défendent les alcools forts, etc., et qui eux sont pas du tout sur cette ligne-là et défendent pas du tout ce point de vue.
Je vous cite, hein, les associations sont soupçonnées de maquiller leur volonté d'interdire l'alcool derrière le vernis de la lutte contre les addictions. Le lobby est accusé de promouvoir la modération et l'éducation des jeunes uniquement pour conquérir de nouveaux clients.
Un chiffre extrêmement important, hein, sur le BEH, c'est que la grande majorité des
BEH
alcools consommés,
l'étude de santé publique,
la grande majorité de l'alcool consommé en France est consommé par les dépendant. C'est-à-dire le chiffre d'affaires des alcooliers est fait par des gens malades, il faut l'avoir en tête. Donc c'est pas leur intérêt d'aller dénoncer.
Thomas Pitrel, vous confirmez ?
Oui, ça, je confirme ce chiffre-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les organisations viticoles notamment, défendent dans certaines de leurs actions la modération.
Oui, on est bien d'accord.
Ce qui est également dénoncé par les addictologues,
bien sûr.
Parce que en défendant la modération, on défend la consommation.
C'est comme l'éducation au goût. Pareil.
Après, c'est une question.
Je cite l'addictologue Michel Reynaud. Ces opérations de prévention ne disent rien des dommages d'une consommation moyenne ou excessive, mais se concentrent sur les bénéfices d'une consommation modérée.
Absolument. Et la grande majorité des Français qui ont besoin d'avoir une information, qui ont la liberté de consommer, n'arrive pas. On est empêché. Tout à l'heure, vous parliez de l'étiquetage, le Nutri-Score par exemple, et c'est impossible d'avoir un Nutri-Score sur une bouteille de vin. Ça n'existe pas.
On a beaucoup de messages, notamment sur la page Facebook, un discours un peu dominant, laissez-nous boire et fumer, ou encore un internaute qui nous dit, je suis terriblement agacé d'entendre vos intervenants ne parler que de consommation excessive d'alcool. On peut aussi consommer de l'alcool par plaisir du goût, comme on a plaisir à manger un bon plat, de la bonne cuisine, ou tout simplement boire un verre de vin entre amis.
Oui, c'est ce qu'on a dit, hein. On est là. Moi, je suis dans le mauvais rôle, évidemment, puisque je dis quels sont les risques de dérapage, évidemment.
Dans le livre, on s'intéresse à deux alcools qui sont en train d'évoluer, qui sont le vin avec le vin nature et la bière avec la bière artisanale. Et en fait, ça participe à quelque chose qui est le mieux boire, comme il y a le mieux être, le mieux manger ces dernières années. Il existe aussi une définition du mieux boire. Alors, je sais que c'est compliqué de dire ça, puisque l'alcool est, par essence, mauvais pour la santé, mais il y a, derrière chaque alcool, il y a de l'art, en fait, une histoire, du goût, de la finesse, de la délicatesse. Et c'est vrai que c'est parfois très bon, il faut le dire.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse, Ouais, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, chaque lundi, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, ce matin, on va ouvrir le champagne parce que c'est l'anniversaire de Madame Helmut, 104 ans. Il y a 12 ans, elle est arrivée seule au volant de sa voiture, rejoindre sa chambre de la maison de retraite. Trop de deuil, trop de solitude, à 92 ans, elle ne veut pas être à la charge de son petit-fils. Elle a mis dans son coffre ce qu'elle a de plus précieux dans la vie. Alors, à 92 ans, deux solutions. Soit cela nécessite de faire un certain tri tellement on a accumulé de traces de notre passage sur Terre, soit aucun tri n'est vraiment nécessaire tellement on n'en a plus vraiment grand-chose à faire de toutes ces choses matérielles qui nous paraissent si importantes à 30 ans. Madame Helmut est belle, coquette, un peu précieuse, très digne. Elle n'aime pas trop dépendre des autres ou que les autres s'inquiètent. Depuis 3 ans, elle ne quitte plus trop sa chambre à la maison de retraite, non pas par dépendance ou impotence, mais pour garder intact son univers, ses quelques livres, L'île au trésor de Stevenson, Peter Pan de James Matthew Barrie et la collection complète des œuvres de Jean d'Ormesson. Et sa musique aussi, qu'elle écoute religieusement, et ses émissions littéraires qu'elle adore, surtout quand les critiques se disputent entre eux comme dans Le Masque et la Plume, m'écrit Bernadette, l'aide-soignante qui veille sur elle. Si je parle d'elle aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, justement, elle ne veut pas fêter ses 104 ans. Non, elle veut fêter ses 102 ans. 102 années vécues, 102 années de souvenirs, de joie, de peine. Et non cette année 104 qu'elle entame à peine, mais qui lui paraît trop lourde, aussi lourde que sa 103e année. Alors, depuis 2 ans, les aides-soignantes lui préparent un gâteau avec 3 bougies en forme de 1, de 0 et de 2. Parce que pour Madame Helmut, 102 ans, ça va. Mais 103 ou 104, vous comprenez, ça commence à faire vraiment trop vieille.
Je la comprends.
Alors, j'en profite pour d'abord saluer toutes les aides-soignantes et tous les aides-soignants qui nous écoutent, particulièrement Bernadette qui m'a confié cette histoire et qui souhaitait qu'on lui fasse la surprise. Ensuite, pour souhaiter à la radio, sur France Inter, qu'elle adore, un merveilleux anniversaire à Madame Helmut qui n'a, comme elle dit, que 102 ans plus un jour.
Bon anniversaire, Madame Helmut. Et je suis persuadé que on fêtera les 104 ans de Mélanie Bauer. Bon pied, bon oeil. Hein, Mélanie Bauer, on se donne rendez-vous?
Oui,
hein,
bien sûr, on sortira le champagne.
La chronique est de Baptiste Beaulieu à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur votre blog. Alors voilà, pourquoi buvez-vous? Comment est perçue votre abstinence? 01 45 24 7000. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. I'm not getting wet. Aldous Harding interprétait le très beau The Barrel.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46, quel est votre rapport à l'alcool? Que vous buviez ou non, dites-nous tout au 01 45 24 7000.
Seriez-vous prêt à vous passer d'alcool durant un mois?
Moi je serais capable, d'autant plus que moi je bois toujours avec beaucoup de modération.
Ah oui, largement. Mais un mois, hein. Ça peut faire du bien des fois, un mois sans alcool. Pourquoi pas?
Pour d'autres, en revanche, c'est un non catégorique.
Moi je suis français, je suis même franchouillard, et je continuerai à boire, comme les années précédentes, tous les jours du mois de janvier.
Cette pratique, venue de Grande-Bretagne où même des clips de campagne sont diffusés, est aujourd'hui soutenue en France par les experts en addictologie. Selon eux, les bienfaits du sevrage, même provisoire, sont nombreux.
La grande majorité des participants dorment mieux, sont contents d'eux, contrôlent mieux leur consommation, ont perdu du poids, ont une impression qu'ils ont une mémoire qui marche mieux, qu'ils ont une peau plus claire, qu'ils sont plus à l'aise. Donc c'est un bénéfice immédiat sur la santé et le bien-être tout à fait perceptible.
Extrait d'un reportage sur LCI en 2019. Tiens, que pensez-vous de cette initiative de ce mois de janvier sans alcool? Thomas Pitrel, Victor Legrand, vous avez écrit « Tournée générale, la France et l'alcool ».
Bah, on n'a pas étudié spécifiquement la question, mais je crois que ça a quand même des effets bénéfiques. À titre personnel, je ne pratique pas, mais c'est intéressant. Ouais.
Déjà, quand j'arrive à ne pas boire pendant un jour, c'est un exploit. Hein, moi, mais j'aimerais beaucoup pouvoir essayer, en tout cas.
Amine Benyamin,
beaucoup de bien, évidemment, beaucoup de bien, on le voit. Michel Reynaud, que j'ai reconnu la voix, en parlait.
Addictologue.
On l'a bien vu, beaucoup de bien. Et puis, ça permet d'avoir du recul. Et parfois, des personnes se rendent compte qu'elles ont beaucoup de difficultés à rester abstinentes. Et donc là, je pensais que pouvoir arrêter plus facilement. Ça, c'est beaucoup nous l'ont dit.
Mélanie Bauer.
Oui, mais je pense que c'est là où on se rend compte où on en est, effectivement. Moi, j'ai arrêté de boire parce que je me suis rendu compte qu'arrêter une semaine, c'était compliqué.
Ah oui.
Arrêter 2 jours, c'était compliqué. Et à partir de là, ça paraissait une montagne. Aujourd'hui, je suis à quasiment 1 an et j'ai mon cerveau qui commence à me dire, ça fait 1 an, quand est-ce qu'on fête ça? Non, mais c'est fou. Et donc c'est une lutte permanente,
bien sûr, bien sûr.
Et c'est pour ça que c'est important, effectivement.
Bonjour Paul, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Vous êtes en école d'ingénieur, Paul. Est-ce que l'alcool est très présent dans votre école?
Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de soirées, au moins une grosse par semaine, et il y a un bar dans l'école qui sert de la bière.
D'accord, un bar dans l'école, d'accord. Et comment c'est vu par la direction, par...
C'est une association de l'école qui tient un bar. Donc c'est des étudiants qui tiennent un bar et qui servent de la bière, servent aussi des sodas, du cidre et du café.
Pourquoi boit-on autant dans votre école d'ingénieur?
Je pense que c'est un peu une façon d'évacuer la timidité, etc. En soirée, c'est vrai que quand il y a de la musique, etc., pour danser, parfois on est un peu timide et souvent les étudiants ils sont plutôt tentés de prendre une bière ou deux. Et puis c'est un peu l'effet, les autres ils en prennent une, donc pourquoi pas moi, c'est un peu un effet de groupe.
Alors il y a un bar dans votre école, mais il y a également des soirées organisées sur le campus où l'on boit beaucoup d'alcool fort.
Alors les soirées elles sont pas sur le campus, elles sont dans Paris, mais oui on boit beaucoup d'alcool fort, donc c'est en boîte en fait, et ce sont les élèves qui organisent la soirée.
Comment sont vus ceux qui ne boivent pas? Je vous cite Paul Marie qui nous dit « Mon fils a 19 ans, il n'a jamais bu d'alcool, il n'aime pas ça, je pense que ça lui fait peur et son rapport aux copains de classe a été parasité par ce fait-là. Il dit que commander un coca quand tout le monde boit de la bière, c'est mal vu. Et elle nous dit « Devenir un homme en France, c'est ça passe par la consommation excessive d'alcool. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors,
vous
moi j'ai des très bons amis... Enfin, deux qui ne boivent pas d'alcool par croyance religieuse et qui viennent à toutes les soirées et qui sont très bien vus. Enfin, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que parmi les élèves qui boivent pas d'alcool, au fur et à mesure de l'année, ils ont tendance à ne plus venir aux soirées. Mais c'est pas du tout parce qu'ils sont exclus. C'est plus parce que c'est un peu plus difficile de s'amuser sans l'alcool parce que les soirées, elle est pas forcément marrante. Et c'est vrai que l'effet que procure l'alcool. C'est un peu ça qui fait s'amuser les gens. Et donc, si les gens ne boivent pas, ils ont tendance à pas trouver la soirée marrante, et donc, au fur et à mesure, ils gagnent plus ou moins souvent.
Professeur Beniamina, pourquoi accepte-t-on socialement ces rites alcoolisés de la jeunesse? On a beaucoup de mansuétude pour ces alcoolisations juvéniles.
Elles ont un rôle, hein. On a
rite initiatique.
Elles ont un rôle initiatique. On le voit bien d'ailleurs. L'initiation aux addictions et l'alcool en particulier passe lorsqu'on passe de l'école au collège, du collège au lycée, du lycée à la fac. Évidemment, derrière ça, c'est intéressant quelque part parce que on a plus le baptême, tout ça. Mais derrière ces rites sociaux, on a souvent, ça n'a pas été dit, mais je peux vous l'assurer, derrière des lobbies, des institutions, des sociétés, des entreprises qui financent gratuitement ces soirées. On donne même de l'argent actuellement à des influenceurs, des étudiants, des blogueurs. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas le fait que les étudiants boivent, bon, ils boiront, mais la manière avec laquelle on alimente ce type, c'est-à-dire on pousse un peu ce que la société nous offre, qui pose problème.
L'idée, c'est il faut bien que jeunesse se passe.
Elle se fera de toutes les façons. La transgression fait partie de l'individuation à cet âge. Ensuite, il faut revenir de la transgression. Il ne faut pas faire l'expérience de la mort. On n'y revient pas, hélas.
Mélanie Bauer.
Oui.
Non, je sais pas, vous avez peut-être envie de réagir à ce que nous disait, tiens, Paul, il parlait de timidité.
Oui,
et d'anxiété sociale.
C'est vrai que j'ai dû réapprendre à danser en arrêtant de boire, parce que je dansais tout le temps, je suis DJ, donc je dansais tout le temps, ça ne me posait pas de problème, et du moment où j'ai arrêté de boire, j'avais l'impression d'être complètement comme une patate dans mon corps, il a fallu que je réapprenne à danser. Et il y a cette autre chose aussi par rapport à ce que disait ce jeune homme, c'est que c'est vrai qu'il y a un langage particulier entre gens qui boivent. On a l'impression, quand on ne boit pas, qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Ils ont des conversations qui durent des heures, où ils sont en boucle sur des choses, et on se dit, mais c'est impossible de communiquer avec eux.
Thomas Pitrel et Victor Legrand vous regardent avec beaucoup d'attention, semblent comprendre ce que vous dites.
Ouais, je pense que si j'arrêtais de boire, il faudrait que je réapprenne à danser et à passer des soirées également. Mais moi, j'ai commencé à boire pour des raisons de timidité également. Mais je crois qu'on commence toujours quelque chose pour des mauvaises raisons.
Ça donne du courage.
Ça donne du courage. Donc au début, c'est pour se tester, c'est pour discuter. Et puis on en arrive à en écrire des livres. Donc parfois, ça peut être bénéfique. On peut apprendre des choses. Moi, je suis vraiment le mec qui promeut l'alcool aujourd'hui.
Est-ce que travailler sur son anxiété sociale, Amine Beniamina, c'est l'une des clés pour lutter contre la consommation excessive d'alcool?
Oui, bien c'est important, évidemment. C'est important de travailler là-dessus. Il faut se lancer. C'est l'évitement qui augmente l'angoisse. C'est un peu comme quand on a peur de prendre l'avion. Si on évite l'avion, jamais on prendra l'avion. Il suffit d'y aller 2-3 fois, ensuite on finit par diminuer la charge d'anxiété. Si on a recours à l'alcool et on se rend compte que ça marche, on aura recours régulièrement à l'alcool. Et là, c'est là où le bât blesse, et là où ça devient compliqué.
Alors j'aimerais citer l'enquête Escapade, hein, qui évaluait la consommation d'alcool à l'âge de 17 ans en France. Une enquête réalisée auprès de 39 115 adolescents âgés de 17 ans. Près de 86% des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir bu de l'alcool au cours de leur vie. L'usage régulier, c'est-à-dire au moins 10 fois dans le mois, ça concerne un jeune sur 10. Et 44% ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante au cours du mois. Oui, allez-y Thomas Pitrel.
En fait, c'est intéressant parce que vous rappelez ce chiffre-là, mais c'est aussi intéressant de rappeler l'évolution, c'est-à-dire que là aujourd'hui je crois qu'on est à 85% à peu près de jeunes de 17 ans qui ont essayé 86. L'alcool, et on était à 89 sur l'étude d'avant. Donc faut aussi rappeler que mine de rien la culture de l'alcool en France recule un petit peu, quoi.
Vous le constatez, vous, ça, Paul, que cette culture de l'alcool recule auprès des jeunes? Vous avez 20 ans.
Moi j'ai commencé à boire au lycée. Et je me rends pas trop compte si les lycéens maintenant ils boivent aussi, mais il me semble que oui. Enfin, j'ai des camarades qui ont des frères et sœurs au lycée, et il me semble que ils font aussi des soirées, ils boivent comme moi je vivais au lycée, donc je vois pas quelque chose d'apparent.
Et est-ce que dans votre entourage étudiant, est-ce que la beuverie express, le fameux binge drinking, ça reste encore très pratiqué ou c'est en déclin?
Non, c'est un peu exagéré. Enfin, en général, ce que j'entends à propos de ça, c'est un petit peu exagéré. Il y a certaines personnes qui aiment bien beaucoup boire. En général, c'est des personnes qui ont l'habitude de boire et qui se mettent vraiment des grosses cuites. Mais c'est une petite minorité. Et c'est, enfin oui, c'est une petite minorité et c'est pas non plus tous les soirs, c'est assez occasionnel.
Le médecin de grand-mère vous fasse, Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, il y a quelque chose que je constate au cabinet médical, notamment avec les patients qui viennent me consulter et qui sont en situation d'addiction, c'est qu'il y a, comme le tabac ou le sucre, sociologiquement, l'alcool, il est à l'intersection de plusieurs discriminations. C'est-à-dire, il y a des corrélations entre la précarité, l'alcool est un moyen aussi d'anesthésier une souffrance sociale, une corrélation avec l'obésité, le chômage, avec les violences conjugales, avec parfois les agressions sexuelles. Et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure à Amine, c'est nous, on reçoit que les patients, les patientes qui ont un rapport pathologique à l'alcool. Donc notre regard est aussi un tout petit peu biaisé, quoi.
Merci beaucoup, Paul, d'avoir témoigné ce matin. Thomas Pitrel, Victor Legrand, j'aimerais qu'on parle des bars. On assiste à une hémorragie des bistrots, ces lieux de convivialité ou parfois de solitude. On est passé, je crois, d'un demi-million au début du XXe siècle à près de 35 000 en 2016, selon le Crédoc. Et il y avait, je crois, 200 000 bistrots en 1960.
Ouais, c'est ça, c'est les chiffres, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça parle de l'hémorragie de commerce dans les petites villes en France, parce que c'est quand même surtout les petites villes qui sont touchées. Il y a eu à un moment donné dans les années 60 des grandes surfaces qui sont installées à la périphérie des villes, ça a vidé les villes de leur commerce. Et souvent, quand on a parlé à des maires de petites villes, ils nous ont tous dit que le dernier commerce à fermer, c'était le bar, parce que c'était celui où les gens continuaient à se réunir, à se retrouver. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de commerce à proximité, qu'on va faire ses courses ailleurs, on se retrouve même plus au bar. Ça pose pas mal de questions parce que il y a pas de lieu vraiment qui a remplacé ça dans les petites villes. Il y a le mouvement des gilets jaunes qui continue, qui part aussi beaucoup du manque d'endroits pour se retrouver des gens qui communiquent pas plus vraiment. Et cette fermeture des bars, je dis pas qu'il faut absolument réouvrir des bars partout, mais en tout cas, il faudrait peut-être trouver un lieu pour que les gens se retrouvent un peu plus, quoi.
Et à la fin de votre ouvrage, vous vous demandez si l'on va vers la fin de l'alcool.
Ouais, alors on se demande ça parce que il y a un scientifique anglais qui a créé un produit qui est l'alcool synthétique.
Ça a lui le plaisir de l'alcool sans les méfaits.
Ouais, voilà. Lui, dans son idée, c'est l'équivalent de la clope électronique pour l'alcool. On ne sait pas encore commercialisé.
Amine Benyamina, en un mot, si vous étiez ministre de la Santé, quel serait votre programme de prévention d'alcool ?
Je vais tenir. En un mot, c'est la dénormalisation de l'alcool. Dénormaliser, ce n'est pas interdire. Et donc, avec toute la politique qui va avec.
Merci à tous. Merci Thomas Pitrel et Victor Legrand. Tournée générale est publiée chez Flammarion. Merci professeur Amine Benyamina. Merci Mélanie Bauer d'avoir eu le courage de témoigner ce matin. On vous retrouve par Jupiter,
oui,
jeudi et vendredi.
Complètement bourré.
Et j'aimerais vous signaler la sortie de 13 à table chez Pocket au profit des Restaurants du Cœur. 14 nouvelles inédites signées Philippe Génada, Maxime Chattam, Leïla Slimani, Tatiana De René. Un livre égale 5 euros égale 4 repas distribués. Demain, on s'intéresse au bien fait des métiers et activités manuelles. Dites-nous tout au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Jérémy Guillon et Kevin Pelot.